Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Sort son nouvel album Simulation Theory. Stephen Bellery a rencontré le chanteur du groupe rock britannique Matthew Bellamy, plongé dans les coulisses de la France. Un incroyable talent, l'émission d'M6 a entamé cette année sa 13e saison. Reportage exclusif de Laurent Marsic au musée d'Orsay. L'exposition Renoir, père et fils, explore le dialogue artistique fécond du peintre Auguste Renoir et de son fils, le cinéaste Jean Renoir. Visite guidée avec Sophie Orange. Et puis à la télévision ce soir, le choix d'Isabelle Morini-Bosque, histoire secrète de l'antithèse. Terrorisme, un documentaire inédit de Patrick Rothman qui sera diffusé par France 2.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Mais avant de développer ce riche programme du jour, nous allons rendre hommage à un génie du divertissement disparu hier. Bonjour Stéphane Boutsov.
Bonjour à tous.
Le créateur de l'Empire Marvel, Stan Lee, nous a quittés à l'âge de 95 ans.
Spider-Man, Iron Man, les X-Men et autres Avengers sont aujourd'hui orphelins, tout comme des centaines de millions de gamins qui ont grandi avec ce monde de super-héros inventé par Stanley Lieber, son vrai nom, dans des bandes dessinées dans lesquelles ces personnages mythiques affrontaient le mal. Stan Lee avait relancé la marque Marvel au début des années 60 grâce aux quatre fantastiques et, succès aidant, avait développé des centaines de héros qui tous devaient aussi composer avec leurs propres démons ou blessures, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Daredevil est aveugle, le docteur Banner devient Hulk, un monstre vert quand il se met en colère, et Wolverine est un mutant aux griffes d'acier rejeté par les humains. À la fin des années 90, la société de Stan Lee est moribonde. Il a exploité à outrance sa marque sur papier. Le carton de Spider-Man, adapté au cinéma en 2002, va tout changer un à un. Tous les super-héros sortis de son imagination vont avoir droit à leur film et même parfois partager l'affiche, comme dans Avengers, où Captain America, Thor et Black Panther font équipe. Quelques dizaines de milliards de dollars de recettes plus tard, Marvel est devenu un empire vendu à Disney en 2010. Stan Lee était resté l'étendard, le visage de la société. Il s'amusait à apparaître dans quasiment tous les films tirés de ses héros, à la façon d'Hitchcock, pour des scènes de quelques secondes, souvent hilarantes. On devrait l'apercevoir trois dernières fois dans Captain Marvel, Avengers 4 et le prochain Spider-Man programmé sur nos écrans en 2019.
Merci Stéphane, avec un dossier spécial bien entendu sur le site RTL.fr. Il y a quelque chose que je n'ai jamais compris, vous qui êtes un spécialiste. Il a une braguette, l'incroyable Hulk, où il est tout nu.
Les gens de cette race, c'est un demi-dieu quand même, donc ils ne font pas pipi comme nous.
Bon, très bien.
Voilà. En vous remerciant.
C'était pas le sens de ma question.
C'est l'un des groupes de rock les plus populaires aujourd'hui. Muse est de retour. Les Britanniques viennent de publier Simulation Theory. Bonjour Stephen Bellery.
Bonjour à tous.
Vous avez écouté pour nous leur 8e album.
Oui, moins électrique, plus électronique. Muse s'amuse à élargir encore un petit peu plus son spectre dans cet album de 11 titres puissants. Un opus débridé dont on ressort un peu essoré, mais qui comporte quelques réussites à l'image de Something Human. Quelques grands écarts audacieux comme cette guitare sèche mêlée à des beats électro. Alors oui, leur rock garage des débuts est bien loin, mais le trio retombe toujours sur ses pattes et assume aussi ses influences comme Queen dans ce Dig Down. Butine aussi du côté de Prince dans Propaganda.
Les Anglais affinent en tout cas, disque après disque, un rock littéralement symphonique, Steven.
Oui, rétro-futuriste, taillé pour les stades et ultra-produit sur CD, des morceaux qu'ils déshabillent pour leurs impressionnants concerts. Muse forge aussi son succès dans ce qu'on appelle la dystopie, une vision pessimiste et sombre du futur entre appel à la révolte, manipulation des masses et robots. J'ai demandé à Matthew Bellamy, leader et chanteur de Muse, pourquoi il était autant fasciné par la dystopie.
J'ai grandi gamin en regardant des films comme Mad Max ou Blade Runner. Peut-être que je les ai vus un peu trop jeunes d'ailleurs. Des trucs comme Alien par exemple, j'ai adoré. Je pense que mes films préférés sont tous de la science-fiction ou fantastique. En tout cas, ils parlent tous du futur. Je suis certain que ça a influencé ma manière de penser. Depuis une décennie, il se passe beaucoup de choses. À la fois un gros retour de la nostalgie mêlé à un futur fantasmé avec la réalité virtuelle. Quand on préparait l'album, j'ai acheté un casque de réalité virtuelle et je me suis beaucoup amusé à faire des jeux vidéo. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai eu l'impression de voyager dans le temps, de retourner à l'enfance. J'ai donc eu l'idée que peut-être dans le futur, on vivrait dans plusieurs époques et réalités simultanément. Nous avons combiné cette idée avec les sonorités du début des années 80 et les imageries des films qui nous ont marqués.
Theory, le nouvel album de Muse vient de sortir. Le groupe se produira au Stade de France le 6 juillet, le 9 juillet au Stade Vélodrome de Marseille ou le 16 juillet au Stade de Bordeaux.
Autre groupe, ils sont australiens, ils s'appellent Parcels et ont débuté hier à Nantes leur tournée française, Steven.
Oui, ils seront ce soir à l'Olympia à Paris, demain à Senon en Gironde ou encore vendredi à Toulouse. Parcels, c'est ça. Son vintage, funky, pop électro, j'adore leur premier album paru le mois dernier qui emprunte autant à Nile Rodgers qu'aux Beach Boys ou Daft Punk. Une production ultra soignée, les mots sont rares, les moments instrumentaux très longs, leur musique détonne et relaxe. Jules Gromlin, le guitariste et le plus bavard du groupe Parcels.
L'idée générale de Parcels au départ, c'était de faire de la musique électronique simplement. On a commencé à travailler sur les logiciels GarageBand et Logic. On voulait être cool, donc l'électro nous a paru être une bonne idée. On a alors décidé de déménager à Berlin, un peu sur un coup de tête. Notre son, c'est clairement de la musique pop, elle est groovy avec beaucoup de couleurs. Nous sommes très inspirés par les musiques du passé, mais nous avons une idée très classique de ce qu'est un groupe. L'idée d'un leader qui ferait tout nous paraît répugnante. Et personne dans le groupe ne veut être ce leader. C'est plus l'émulation, le fait d'être ensemble qui crée, je crois, de la bonne musique. Good music together.
S'appelle Parcels comme leur premier album et ils vont réchauffer votre automne. Oui, qui concerne Véronique Sanson. La chanteuse devait reprendre sa tournée dans quelques jours. Elle a subi une radiothérapie en octobre dernier et elle est encore un petit peu trop fatiguée pour reprendre le fil de sa tournée. Et son producteur Gilbert Couli annonce que les 11 concerts prévus à partir du 30 novembre, dont les concerts parisiens, sont annulés, les billets sont remboursables dans les points de vente où ils ont été achetés. Véronique Sanson sera de retour la semaine prochaine avec l'album Duo Volatile qui, lui, est bien confirmé. On ne sait pas encore si elle s'exprimera, si elle prendra la parole dans les prochains jours.
Merci beaucoup, Steven Bellery. Dans quelques instants, l'actualité télévisée.
RTL, laissez-vous tenter, 9h10. RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Yves Calvi jusqu'à 9h30.
On commence notre page télévisée, en tout cas notre première page télévisée avec nos audiences et Médiamétrie, Isabelle Morini-Bosque.
Eh bien écoutez, ça sert de se mettre au vert puisque L'Amour est dans le Pré est en tête des audiences avec près de 4 300 000 téléspectateurs, 18% du public de tous âges et bien entendu 25% des fameuses femmes responsables d'achat. Deuxième position, Joséphine, 3 900 000 et Take-Two suit en pente douce derrière avec un peu plus de 2 millions. Et alors côté TNT, c'est Red sur W9 qui fait largement la maille, 2 millions de téléspectateurs.
Twitter.
Alors, à voir ce soir sur M6, le troisième numéro de La France a un incroyable talent, ou quand le meilleur de l'extraordinaire et de l'absurde se rencontre pour une émission plutôt déjantée. Laurent Marsic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes glissé dans les coulisses de cette émission où finalement le show est tout autant côté scène que côté coulisses.
Exactement. On va remonter un peu le temps puisque c'est une émission qui est tournée à la fin de l'été dans un théâtre, celui de Rueil-Malmaison dans l'ouest parisien. Le tournage débute dans 2 heures, mais déjà une longue file de spectateurs patientent à l'extérieur. Tournage confidentiel. Alors, dès l'arrivée, quelques consignes.
Bonjour madame, pas de téléphone portable sur vous ?
Non. Je vous remercie, très bon spectacle.
Merci. On laisse les téléphones portables à l'extérieur. Devant nous, une porte, un long couloir et nous voici dans les loges du jury. À gauche, une grande table pour déjeuner. C'est d'ailleurs là qu'il ripaille et que la production vient aussi briefer une dernière fois les 4 jurés, dont les 2 nouveaux, Marianne James et Sugar Sammy. Marianne qui veut être une spectatrice comblée, dit-elle.
J'ai envie de spectacle. Je veux quelque chose à la fois de senti, légitime, spectaculaire. Je reste une spectatrice, comme les gens chez eux dans leur salon. Je comprends leur trac. Moi, par exemple, avec tous ces jeunes qui viennent face à nous, j'essaie de ne pas boire leur trac. Moi, je suis un vrai buvard. Je suis très en empathie avec eux. Et on sent leur trac, on le voit. Et parfois même, on leur fait recommencer parce qu'on se dit, il y a une vraie pépite et cette personne vient de passer à 50 mètres d'elle. Elle n'a pas su se calmer. Se concentrer assez, elle s'est mis la barre tellement haute qu'elle vient juste de louper son audition. Et elle va nous manquer sur les demi-finales et les finales. Il faut que cette personne revienne, ça nous est arrivé déjà plusieurs fois.
Laissons Marianne se préparer dans la loge d'à côté. Ça tombe déjà pour la deuxième partie de soirée. Jérôme Anthony tente un quiz avec le jury.
Bim, 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 top. Attention, vérification en images.
2 bonnes réponses. Deux bonnes réponses.
On va le laisser compter, ça ira mieux après. Tiens, voilà Sugar Sammy qui passe devant nous, le Canadien qui a parfois de la dent dure dans l'émission. Il reconnaît qu'il a déjà quelques regrets.
Il y a quand même des très bons numéros qu'on a vus, des très très bons numéros. D'ailleurs, des fois, t'as des regrets sur certains que t'as pas golden buzzé. Tu dis, ah, j'aurais dû. Ah, pourquoi j'ai pas fait ça? Il y en a de très très bons cette année qui m'ont impressionné. Et hors mon champ d'expertise.
On s'agite dans le couloir. On a, c'est un grand classique sur les tournages, 20 minutes de retard.
Allez les amis, on y va s'il vous plaît.
Et quand personne ne bouge dans ces cas-là, vous connaissez l'arme secrète? Bah, c'est d'envoyer Eric Antoine.
C'est la police, contrôle d'identité. Vous avez vos papiers monsieur?
Plus déchaîné que jamais. D'ailleurs la nouvelle productrice de l'émission, Audrey Bensoussan, vient de faire une énorme boulette et d'allumer une mèche dangereuse.
La meuf, elle me dit, Eric, faut que tu te lâches plus. Elle vient de prendre un grand risque.
Ah, effectivement, Hélène Segarra passe devant nous, le jury est maintenant au complet.
Bon, pendant ce temps, je suppose qu'on chauffe comme on dit le public.
Hein. Exactement.
Et le golden buzzer, il faut que ça tienne, faut que ça tienne.
Car avant que ne démarre le tournage, on met en boîte des réactions du public. Le jury retrouve David Ginola, micro en main, qui patiente sur un coin de la scène. Eric Antoine a tellement fait le pitre que déjà raccord maquillage pour lui.
Le public est bon, les mains épongent la sueur déjà naissante sur tout mon corps.
Et c'est l'entrée du jury.
Il faut juste me faire une entrée de chambre pour que vous soyez là.
Tout est filmé, on va laisser le jury s'installer, on va se glisser à l'arrière de la scène. Une grande cour où on a installé 2 décors, des caméras. Jérôme Anthony débriefe les candidats à leur sortie de scène, ce sera pour la deuxième partie de soirée. Plus loin, sous une grande tente, les talents qui patientent, ça chante, ça s'étire, on se fait coiffer, maquiller. Beaucoup sont déjà des professionnels, ils viennent dans un seul but. Christophe Fluder, acteur et humoriste de petite taille.
Je suis venu en fait dans Incroyable Talent pour faire connaître mon spectacle. Bah, je pense que c'est un bon moyen parce que c'est télévisé, c'est suivi par des millions de téléspectateurs et puis il y a les 100 000 balles. C'est important quand même. Hein.
Bonsoir, alors juste, je voudrais juste prévenir les téléspectateurs, c'est pas la peine de régler votre télé, c'est pas votre télé qui déconne. Elle est certainement en 16/9. C'est moi qui suis en format 4 tiers, donc il n'y a pas de...
Ça rit un peu jaune dans la salle, vous le verrez ce soir dans l'émission. Glissons-nous près de la scène, voici David Ginola, c'est lui qui lance les talents sur scène. Détendu bon public, il encourage, il applaudit, il faut dire que parfois c'est nécessaire. Comme avec les enfants, les rassurer un peu, ça c'est aussi le boulot d'un des assistants de la production. Il y a 2 petits loupiots ukrainiens qui vont épater le jury avec un numéro de voltige incroyable.
Tout va bien se passer, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, d'accord? Vous êtes là pour kiffer, vous vous amusez, vous épatez le jury, ok?
D'où est-ce que vous venez?
Moi, Ukraine.
On est venu d'Ukraine, de Kharkov.
Nikita et Katia, c'était comme un dessin animé, c'était comme Peter Pan, c'était en dehors du comble de la mignonnerie quand vous êtes arrivé.
Il y a énormément de bienveillance parce que tout ça reste un spectacle, c'est pas du jugement dernier non plus. 130 candidats vont ainsi défiler sur la scène et 30 partiront en demi-finale.
La France a un incroyable talent et donc à voir ce soir sur M6 à 21h. Vous voulez ajouter quelque chose?
Ah oui, moi j'ai vraiment adoré l'émission du jour parce que le prisme d'âge est très très large. Ça va de 7 à 82 ans, un monsieur mais adorable. On rit, on pleure, ça étonne, ça détonne et il y a même de faux ringards. Ne loupez pas vers la 50e minute.
De faux ringards. Ringard.
Oui, de faux Ringard. Les frères Jacquard, trois frères qui ont l'air d'être sortis tout droit du pire des années 70, eh ben, ils réussissent à réconcilier Carlos et Michael Jackson.
Alors là, j'ai hâte d'écouter tout cela.
C'est formidable.
Dans un instant, Sophie Orange nous emmène au musée d'Orsay pour une rencontre extraordinaire, celle d'un père et d'un fils, en l'occurrence, les Renoir.
RTL, laissez-vous tenter, 9h18.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous nous emmenez ce matin au musée d'Orsay à la rencontre d'un père immensément célèbre et de son fils qu'il est tout autant, Auguste et Jean Renoir, une exposition croisée, Renoir, père et fils.
L'un est peintre, l'autre est cinéaste. Auguste Renoir et ses nombreux chefs-d'œuvre, le bal du Moulin de la Galette, les baigneuses, le déjeuner des canotiers. Jean Renoir, réalisateur de films à succès, La Grande Illusion, Partie de campagne, French Cancan. Il a 25 ans quand son illustre père meurt et mène sa propre carrière en se nourrissant de ce père qu'il admire, une sorte de piété filiale, des films qui s'éloignent des tableaux d'Auguste Renoir ou qui sont à d'autres moments tout proches, notamment pour Partie de campagne en 1946. Ce film, Jean Renoir l'a tourné à Bouron-Barlotte, c'est là que son père avait peint et vécu, et puis surtout... Il y a cette célèbre scène de la balançoire en écho direct avec le tableau d'Auguste Renoir. La balançoire peint en 1876. Les deux, l'extrait du film et le chef-d'œuvre, se font face dès la première salle. Mais on n'est pas dans la copie conforme, explique Sylvie Patry, directrice des collections du musée d'Orsay, et Mathieu Orléans de la Cinémathèque française.
Le sujet, ce n'est pas tant qu'il y ait une balançoire et une balançoire. Le sujet, c'est qu'il connaissait ce tableau de la balançoire, une sorte d'hommage à la liberté que représente l'œuvre de son père à ce moment-là. Mais il y a aussi une prise de conscience, une exploration, une expérimentation des moyens propres au cinéma.
Par exemple, Jean Renoir se refuse à filmer la balançoire de manière frontale. Il la montre soit de très loin au début, et ensuite quand elle est de près, elle est sans cesse en plongée, en contre-plongée. On dirait soit du côté du cinéma un film expressionniste, soit du côté de la peinture, une peinture cubiste, pas du tout un tableau apaisé, solaire de Jean Renoir, de Pierre-Auguste Renoir, pardon. Et donc là, c'est vrai que toutes ces différences sont extrêmement fondamentales.
Vous avez vu le lapsus entre Auguste et Jean. Paradoxal, ce film est en noir et blanc, mais il y a quand même une ambiance impressionniste dans le film. La nature, l'eau, les canotiers, le plein air. Mais pour Partie de campagne, comme pour les autres films de Jean Renoir, on est bien au cinéma, ce ne sont pas des tableaux vivants.
À aucun moment, Jean Renoir n'a transposé la peinture au cinéma et n'a fait des tableaux vivants. Il a regardé la peinture de son père, il s'est nourri de l'exemple de son père, mais il fait partie de ceux qui ont justement inventé un nouveau langage avec ses spécificités. Le cinéma, ça bouge, ça parle, on cadre, c'est pas de la peinture, c'est pas un tableau. Et ça, évidemment, Jean, c'est pour ça que c'est un grand cinéaste, il en a absolument été conscient.
Mais alors, comment est-ce que Jean Renoir a découvert ou s'est mis, en fait, au cinéma ?
Alors, il a toujours aimé le cinéma. Il regardait avec son père des bobines de films de Charlie Chaplin. Mais c'est vrai qu'au départ, Jean a commencé par la céramique. Et c'est une femme qui le fait basculer, si j'ose dire. Alors, il n'a pas tué le père pour mener sa carrière, mais il a épousé André Oechling. C'est l'une des dernières modèles de son père, notamment pour les baigneuses. Nous sommes entre 1915 et 1919. Dédé a tout juste 15 ans. Jean tombe amoureux, l'épouse donc. Elle rêve de faire du cinéma. Jean réalise avec elle et pour elle son premier film, Catherine, en 1924, en vente des tableaux de son père pour le financer, comme d'autres films d'ailleurs. Son plus grand succès au cinéma, c'est La Grande Illusion. Nous sommes en 1937. Une renommée internationale, Jean Renoir s'exile aux États-Unis pendant la guerre, tourne 8 films outre-Atlantique où le nom de Renoir, Auguste, est déjà très célèbre. De retour en France, on lui doit encore d'autres films très clairement liés à son passé et à son père.
Il y a une volonté tout d'un coup de se réapproprier un peu son histoire, lui qui est parti. Il va revenir en France pour travailler. Et c'est vrai que là, il va avoir une série de films entre French Cancan, Elena et les hommes, Le Déjeuner sur l'herbe, qui là, dialogue beaucoup plus ouvertement avec son père. Il faut dire que c'est des films qui sont en couleur. Ces souvenirs qu'il a d'enfant où il jouait avec les pigments qui étaient dans des pots dans l'atelier de son père. Et donc ce jeu qu'il a eu très tactile avec la couleur très épidermique, il va le retrouver dans ses films qui sont comme une grande palette sur une toile de cinéma.
Certaines scènes de French Cancan s'inspirent d'ailleurs directement du tableau de son père, le Moulin de la Galette.
Alors vous avez beaucoup évoqué la relation entre le fils et le père, et dans l'autre sens, ça
Mais
se passe
Auguste
comment
aussi était très attaché à Jean. La preuve, il a peint 60 portraits de son fils, de la naissance à l'âge adulte. Une salle leur est consacrée d'ailleurs dans l'exposition. On voit Jean bébé, on voit aussi Jean cousant avec ses cheveux longs, on dirait clairement une petite fille avec ses cheveux roux. Et Jean, chasseur, c'est le dernier tableau qu'Auguste a peint, tableau que Jean a gardé toute sa vie, celui-là il ne l'a pas vendu. Et dans son salon, dans son bureau, on voit même plusieurs clichés de Jean âgé avec le tableau derrière. Jean Renoir a écrit un livre sur son père, mais il ne l'a jamais filmé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Renoir partageaient le même optimisme, le bonheur de vivre, le même acharnement au travail pour nous offrir des chefs-d'œuvre que vous verrez donc au musée d'Orsay à Paris.
Et quand il était satisfait de ses prises de cinéma, Jean Renoir ponctuait toujours cela en disant « c'était pas tant », ce qui rend compte de ce formidable optimisme que vous évoquez. On retourne à la télévision avec vous Isabelle Morini-Bosque. Alors ce soir, il y a certes Good Doctor sur TF1, mais vous êtes surtout vous intéressé à l'histoire secrète de l'antiterrorisme sur France 2.
Exactement, un doc signé Patrick Rothman avec son co-réalisateur Vincent Nouzi. Il s'est penché sur ces 35 années qui ont vu naître et se multiplier les attentats islamistes qui ont endeuillé la France durant 3 décennies. Tout est absolument passionnant. Sont notamment fascinants ces témoins qui ont risqué leur vie pour que nous ne risquions pas la nôtre. Mais j'ai surtout été frappée par l'obligation d'adaptation au fil des années des différents services police renseignement totalement démunis au départ et travaillant en parallèle. Le premier de ces attentats, c'est évidemment celui de la rue des Rosiers le 9 août 82 dans le restaurant chez Goldenberg. Les images montrent le chaos. Ils piétinent la scène de crime. Le juge Jean-Louis Bruguière, 40 ans à l'époque, confirme.
Je me rends sur place. On n'avait pas à l'époque, si vous voulez, la même discipline en matière de police scientifique qu'on a aujourd'hui. J'ai essayé de lutter, mais sans grand succès, car tous les politiques étaient là, tout le monde piétinait partout. Là, et donc, c'est évident que pour le recueil des indices, c'est pas la meilleure situation.
Chaque service bosse dans son coin. Écoutez Yves Bonnet, patron de la DSC, et son adjoint Jean-François Caprioli.
On est une petite équipe. Il y aura une trentaine de personnes qui vont être en charge de ce domaine à partir de janvier 1983.
Disons que sur 35 personnes, on avait peut-être 4 voitures.
Voilà. Est évidemment nié tout contact avec les terroristes, notamment avec le mercenaire Abou Nidal. Mm-hmm. Sauf que Yves Bonnet tient un autre discours qui, aujourd'hui encore, gêne ses lieutenants.
Et nous sommes entrés en relation avec l'organisation d'Abou Nidal. Nous avons passé un espèce de marché non écrit qui voulait que les gens d'Abou Nidal ne commettraient plus d'attentats en France, mais qu'en revanche, je leur garantissais qu'ils pouvaient venir en France. Mais il ne faut surtout pas aller dire à un juge que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est recherché pour des commissions d'attentats, parce qu'à la limite, il peut vous impliquer de complicité.
Bon. Le préfet Bonnet vous en a parlé, mais moi, je ne vous en parlerai pas.
Je ne veux pas m'exprimer là-dessus. Lui, il s'est exprimé, bon, il dit ce qu'il a envie de dire. Donc c'était le patron, moi, je n'ai rien à dire à ce sujet.
Confirmation d'un agent de la DGSE, Alain Chouet, spécialiste de l'antiterrorisme dès le début des années 80.
C'est pas vrai qu'on négocie pas avec les terroristes, on négocie avec les terroristes. Nous sommes faits pour ça et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse dans le secret, parce que c'est des choses que l'État ne peut pas reconnaître et ne doit pas reconnaître. Si on commence à admettre qu'on négocie avec les terroristes, on est fichu sur tous les plans. Donc on va confier ça à des gens qui le font dans le plus grand secret et dans la clandestinité, c'est-à-dire les services spéciaux.
Les Français doivent faire face aux prises d'otages au Liban. On le sait, mais les terroristes découvrent l'efficacité médiatique des attentats sur le territoire. Ça commence le 7 décembre 85 aux Galeries Lafayette au printemps. Et durant toute l'année 86, les bombes vont exploser dans le TGV Paris-Lyon, dans les Galeries Claridge et Poinchot, j'y étais, dans la rue de Rennes, et puis le bureau de poste de l'hôtel de ville, soit des dizaines de morts, avec l'ordre au départ de minimiser tout impact et de faire croire à l'action isolée d'un illuminé. Évidemment, le juge d'instruction Alain Marceau dément ce soir, vous l'entendez, dès 21h sur France 2 dans ce formidable document qui n'a, si j'ose dire, aucun temps mort.
France 2, 21h. Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosse. Cette toute dernière information, les forces de l'ordre interviendront pour lever tout blocage total. Tout blocage total lors de la journée de mobilisation des Gilets jaunes le 17 novembre. C'est ce que vient d'annoncer il y a quelques instants Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur.
RTL 9h28.
RTL. Je crois qu'on a passé un bon moment. Non, bah, vous n'êtes pas
convaincu. Moi, j'ai passé un bon moment.
Alors, très bien. Alors, nous allons, puisque c'est comme ça, nous allons passer un excellent moment avec Julien Courbet. Ici, c'est la révolution.
Oui, je vois ça. Je vois que vraiment, quand vous leur demandez, avez-vous passé un bon moment avec un grand blanc comme ça, il faut vous remettre en question et vous poser les bonnes questions. Et
je crois que vous avez raison.
Et est-ce que vous posez parfois la même question à votre compagne? Avez-vous le même blanc derrière? Tu as passé un bon moment.
C'est arrivé, oui.
Je te demande si tu as passé un bon moment, chérie. Bon, d'accord. Voilà. Merci, mais écoutez, on en apprend tous les jours.
Merci, vous m'avez bien remonté le moral et je vous souhaite une excellente émission.
Mais c'est pas le moral qu'il faut remonter, mon petit, si vous voulez que ça s'arrange. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne à émission. Bientôt. Merci à tous.